1, 2, 3, 4. I thought he'd never leave.
Well, hey, bonjour. Et bonjour, pas de barouf. Voilà. Toi aussi, Tommy Boy.
Les sensors sont avec vous.
Les micros sont très forts ce soir.
Et c'est surtout que moi je m'entends pas parce que tu m'as pas monté les écouteurs. Alors, j'essaie de m'entendre, du coup j'escagasse les micros.
Ah d'accord, bon attends, je vais monter un peu. Hein. Tiens, c'est curieux. Il se passe des choses bizarres. Hein? Je monte ton casque, c'est le mien qui monte aussi. Bon, bah écoute, hein, après. C'est des mystères de la table de mixage.
C'est les casques communicants.
Voilà, ça doit être ça, oui.
Bon.
Donc là, tu es normalement très très fort dans ton casque, tu parles doucement. Hein.
Oui, oui, je parle tout doucement. Voilà, voilà, chers auditeurs, bonsoir. Les dinosaures sont avec vous, comme chaque dimanche soir, à 21h30 à 23h, sur Canal Sud 92.2 méga gentilhertz. Et on va s'écouter un classique de l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire les années 70, qui, comme chacun le sait, commence en 1968, avec Vidance des Shocking Blue, qui doit être de 69, si je me souviens bien.
Voilà, il y a un alibi, bien sûr, pour passer ce vieux classique.
Ah, tu as tout deviné, mais laissons durer le suspense.
Ça, c'est du fade-out ultra rapide.
Tonsins
Venus. Alors, il fallait pas que ça dépasse trop les 3 minutes. Hein. Ça fasse un tube.
De toute façon, Shocking Blue, leurs morceaux étaient tous calibrés. Parfois pas très originaux, mais parfois géniaux.
Voilà.
Et c'est... parfois les deux à la fois. Pas très originaux et géniaux. Parfois, bon, bon
qu'est-ce que tu veux. Ça, c'est leur coup de génie ultime. Là.
Oui, oui. Bah, c'était le premier aussi. Hein. C'était... Enfin, le premier coup de génie, ça avait été de virer le chanteur et d'embaucher une chanteuse quand
oui,
même.
Oui, oui. Oui, ça y a fait.
Maryse Caveres, c'est quand même quelque chose. Ouais. C'était, puisque la pauvre dame est morte d'un cancer il y a quelques années.
Donc tout à l'heure, on reviendra sur ce morceau, je pense.
On reviendra.
En attendant, un autre classique, Gimme Shelter des Stones, mais une reprise. Une reprise par les redoutables Grand Funk Railroad.
En public, je te parie.
En public, le concert de 71, là, enfin la tournée de 71, donc un album qui n'est pas tout à fait officiel ou qui est sorti beaucoup plus tard, on va dire.
Je crois qu'il est officiel, mais effectivement, c'est des trucs faits beaucoup plus tard pour capitaliser sur le catalogue.
C'est un très bon disque, hein. Bon, même si on retrouve des morceaux en commun avec le fameux double live héroïque de Grand Funk. Mais ils avaient encore la patate en 71. Et ils reprenaient notamment Gimme Shelter qui figurait sur l'album Survival, non, oui, c'est ça, Survival, en fait, l'origine, l'album studio Survival. Dans cette tournée, ils le reprenaient sur scène. Ils concluaient même plus ou moins leur concert avant le dernier appel par Gimme Shelter. On va s'écouter cette version live, un peu longue, hein, mais bon, c'est Grand Funk, hein, ils se laissent aller de temps en temps. Hein. Et c'est une version velue, bien entendu. Grand Funk Railroad en 71.
Yeah, this song, this is like our generation's national anthem.
émission que je trouve tout à fait réussie, ma foi, bien velue, bien poilue.
Mmh. Oui, c'est
fricable de guitare mémorable.
Ça change pas mal le caractère de la chanson d'origine. Ce qui est le sens d'une reprise réussie aussi.
Oui, c'est ça, voilà. Ça, ils ont, ils l'ont rendu minimaliste à souhait, là. Mmh. Hein. Mmh. Il n'y a, a plus les. Ouais.
Tu sais de qui, Grand Funk Railroad est le groupe préféré?
Non, de plein de gens, j'imagine. Mais
personnage célèbre.
Ah oui, non, aucune idée.
Qui aime bien, comment dire, célébrer, qu'est-ce que c'est? Les arabesques de guitare de Mark Farner, la basse tellurique de Mel Schachner et la batterie compétente de Don Brewer.
Oui,
monsieur.
Une bonne description.
Homer Simpson.
Homer Simpson, c'est pas vrai.
Si.
Ah ben tu vois, hein. Ouais, mais il a bon goût, c'est Homer.
Ouais, j'ai appris ça en lisant Wikipédia. Il te donne le numéro de l'épisode où apparaît Grand Funk.
Parce qu'il y a beaucoup, je savais que Grand Funk apparaissait dans le numéro.
Beaucoup de groupes de rock qui apparaissent dans les Simpsons, bien sûr.
Grand Funk, c'était à côté de Détroit, là, cette ville qui est devenue
Flint.
Une ville fantôme. Là, Michael Moore a raconté l'histoire de cette,
sujet,
ce faubourg de Détroit,
du premier film célèbre, enfin le premier film ou du premier film connu de Michael Moore.
Ouais. Ouais. Et
oui. Bon, tu as un petit jingle nous passer.
Oui, je suis tout surpris. Voyez, d'habitude, ça arrive en fin d'émission.
Non, on bouscule un peu les conventions. Là, c'est la révolution totale ce soir.
Je suis ça, bah, et non, ça m'étonne de ta part. Je suis totalement épuisé quand arrive ce jingle, donc je le passe. Mécaniquement là, mais là je suis en pleine bourre, c'est le début de l'émission.
Tu seras complètement de passage.
Tu crois pas quand même que je vais laisser passer ce jingle sans réagir, hein? Eh ben si, après tout. Je fais la grève de la connerie. Je ne dirai rien sur ce jingle ce soir.
Mes chanteurs, les honnêtes, faits pour divertir les passants
et les fainéants.
As
l'opense brandis. Lucrez expandis, volen viure al país.
Los Grunt Cocos, toujours immortel.
C'est toi qui craque. Le jingle est plus long que le morceau que l'on passe en général par la suite.
Voilà, non, parce que c'est Neil Young avec Crazy Horse.
Ah, oui,
donc en général, ils se laissent aller aussi. Donc tiré de l'album Americana, qui ne sont que des chansons traditionnelles officiellement. Enfin, il y a God Save the King, ça je crois qu'on connaît l'auteur quand même. La plupart sont, bon, alors God Save the King, dans un album qui s'appelle Americana, il y a quand même cherché l'erreur, hein, mais bon, avant 1776 peut-être, oui.
Bon, cela dit, c'est la source, enfin le vieux folklore britannique est la source d'une bonne partie du folklore américain, on va dire.
Évidemment. Et donc, on va s'écouter une chanson là, quand même, qui a des références typiquement américaines, puisqu'il est question de venir de l'Alabama avec un banjo sur le genou. C'est Oh Susanna. Mais un Oh Susanna qui va vous rappeler un morceau que vous avez entendu il n'y a pas longtemps, je pense.
Ah ah. Neil Young, donc.
Susanna was coming down the hill. Oh, 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 Susanna. was in her mouth, the tear was in her eyes. Says I'm coming from the south, Susanna, don't you cry.
Ils sont contents. Hein. Ah bah, ouais. C'est une version surprenante, effectivement, de ce vieux traditionnel qui ressemble beaucoup à Venus.
Et oui, Susanna. Oh, Susanna.
Ouais, non, ouais. Clin d'œil est évident.
Mmh. Susanna, c'est Venus. Ah, qui l'eût cru.
Voilà, j'avais promis d'amener la version d'Abner J, qui, elle, est par contre beaucoup plus proche de ce qu'était Oh, Susanna à l'origine. Hein. C'était en tout cas ce qu'il se vantait de faire, c'est-à-dire d'interpréter ces vieux morceaux à la manière dont ils l'étaient à la fin du 19e ou au début du 20e. Mais j'ai oublié, bien entendu. Donc, dans 15 jours, on se le passera, le Oh, Susanna, revu et corrigé dans les années 70 par Abner J.
Voilà, parce que dans une semaine, on vous le dit, on vous le redira, il n'y aura pas de bébé dinosaure. Le dimanche 24 juin sera le jour de la célébration de la 100e de l'émission Canal SF, qui, une fois par mois, nous précède. Hein, et nous fait prendre du retard, mais on les écrase avec nos grosses pattes et fuit les studios.
Tu n'y es pas pour rien, puisque tu y participes.
Comment ?
Sinon, avec des coups de cœur en fin d'émission,
c'est mon alter ego secret.
Interminable. Il faut que je rugisse dans les studios pour enfin avoir antenne.
Oh, je t'ai menti.
Alors là, du coup, la semaine prochaine, là, ils pourront s'en donner à cœur joie, Thierry et tous ses potes. Et ce sera une grosse fiesta pendant 3 heures. Hein,
3 heures, 3 heures d'émission. Ça sera de 20h à 23h, Canal SF.
Voilà. Et bien, en attendant, on va revenir à The Up, qu'on a passé la semaine dernière, ce groupe de Détroit, hein, les petits frères du MC5. Et un morceau que j'avais annoncé la semaine dernière, mais je m'étais gouré de face, alors je rattrape ma petite connerie. Et on va s'écouter cette fois, c'est sur Just Like an Aborigine, qui figure sur la façade du 25 cm Killer Up, qui est sorti sur Total Energy, un label Los Angeles, je pense, de Californie en tout cas, qui est spécialisé dans les inhumations de vieilles bandes des Stooges et du MC5. Et des groupes de la même époque et de la même scène, et qui a sorti un album aussi de The Up, où il doit y avoir quelques morceaux en plus, je pense, un LP, quoi. Ça c'est le 25 cm. Killer Up, on s'écoute donc le morceau Just Like an Aborigine. Pour les fans de précision inutile, je précise donc que c'est le mix numéro 3 de ce morceau. Aborigine, c'est comme ça qu'on prononce, par The Up, donc ce groupe de Détroit, sur le 25 cm, Killer Up. The des enregistrements qui datent de entre 69 et 72, hein, je crois que c'est ça, ouais, c'est ce qui est précisé, entre 69 et 72. Le groupe a une carrière quand même assez éphémère. Et puis toute cette scène là s'est effondrée, hein, vers 72, là, toute cette scène autour des Stooges et du MC5. Mais après d'autres ont pris leur relève.
Où en sommes-nous? Bien, on s'est passé Venus en début d'émission, hein, l'immortel succès des Shocking Blue. On va s'écouter un groupe des années 80 qui fait un morceau à lui qui s'appelle Burning Hell. Alors c'est pas Burn in Hell comme les...
Oui.
C'est pas brûler en enfer, c'est l'enfer brûlant.
D'accord.
Hein, brûler en enfer, là. Burn in Hell, c'était le nom de ce groupe australien génial, là, genre...
c'était quelque chose, hein.
Nick Cave déjanté, enfin.
Tom Waits.
Voilà. Qui est passé dans un bar du quartier Saint-Cyprien, dont j'oublie le nom.
C'était le Bistrologue.
Le Bistrologue, voilà, un nom à retenir. D'autant plus que je regarde leur menu là, sur l'ardoise, ils ont l'air d'avoir de la bouffe originale, un peu rigolote.
Ouais. Et les concerts sont gratuits, en tout cas celui-là l'été, qui n'est pas négligeable non plus.
Et la bière n'est pas chère. Que demande le peuple.
Beaucoup d'avantages.
Voilà. Donc nous allons revenir à notre groupe des années 80 avec un riff qui me rappelle quelque part un peu Venus, tu sais, c'est mais ça n'a rien à voir et ça fait rien, on se le passe pour le plaisir, même si c'est complètement en dehors des dates de l'émission, c'est vraiment abominable, je vais me faire virer, c'est pas possible.
Attention, hein, je vais être obligé de passer moi aussi des morceaux hors limite, et là je te préviens, ça peut être du Parliament des années 80.
Dis-moi pas que tu l'as jamais fait.
Rarement, très rarement. Bon, alors, t'as pas les noms du groupe, c'est fait exprès.
Tu devineras.
D'accord, ben moi je sais déjà, à vrai dire. Parce
t'as regardé.
Je t'ai vu mettre le disque.
C'est le blind test pour les
auditeurs. C'est le blind test pour les auditeurs, voilà.
Yeah.
Et oui, c'était R.E.M., comme vous l'aviez tous reconnu, naturellement. Mais c'est un morceau sorti de leur album de chute de studio, là, Dead Letter Office, qui est sorti en 87.
Ils sont plus crus quand même, plus musclés que la plupart de leurs morceaux de l'époque. Hein.
Ça rappelle les tout débuts, quoi.
Les tout débuts, ouais. Voilà. C'est à la voix qu'on reconnaît, quoi.
Et ils étaient un peu punk, si tu veux. Il y a les enregistrements pirates, là, des débuts, où c'est assez... ça raclassait, effectivement. C'est... Et bon, alors on n'est pas d'accord sur le fait que le riff ressemble ou pas à celui des couplets de Venus.
Un peu, ouais. Quand même, un peu, oui. Un peu.
Bien.
On va s'écouter maintenant un mec tout à fait contemporain qui sera au festival de Binic au mois d'août. Là, on en parle beaucoup dans Digit, dans l'émission Digit du jeudi là, sur Canal Sud, émission rock'n'roll de Canal Sud. Parce qu'il y a un line-up incroyable dans ce festival qui est gratuit en plus, sur 3 jours, où les groupes jouent plusieurs fois, donc tu es quasiment sûr de pouvoir les voir si tu en as vraiment envie. Et dans tous ces groupes qu'on passe souvent à Digit, à vrai dire, qui sont à l'affiche, il y a Ty Segall. Alors, on va s'écouter Ty Segall faisant une reprise 70s. Les auditeurs attentifs qui ont écouté les émissions de la semaine dernière ou de la semaine d'avant savent peut-être déjà de quel groupe il s'agit. Et à ce moment-là, ils essaieront de deviner le morceau. Et puis les autres, eh ben, je leur laisse deviner et le titre et le morceau, et l'auteur original de ce morceau. C'est en tout cas Ty Segall qui le reprend, ma foi, de belle manière. Par contre, sur un truc qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais je ne pourrais pas vous donner de date exacte. Peut-être l'an dernier. Il sort 30 disques par an, alors c'est difficile à suivre, Ty Segall. C'est un EP, 4 titres et 4 reprises du même groupe. En voilà une. Oups, je me suis gouré, ça doit être REM, ça je pense, ça doit être plutôt ouais. Par là-haut.
I'm
Voilà, alors les bébés dinosaures, à la pointe de la technologie, on vient d'inventer le CD qui saute comme un vinyle. Qui répète le...
Et puis avec la même périodicité en plus. Hein.
Exactement, voilà, non, parce que c'est un CD, c'est gravé. Et ben voilà, c'est quand même beau d'arriver à avoir enfin un CD qui sonne comme un vinyle pourri.
Ouais, on peut faire croire qu'on a passé le vinyle, mais non.
Et ben non, non, attends, pas non plus. Là, c'est des morceaux téléchargés. Qu'est-ce que vous voulez cela dit, les tailles s'égalent, on arrive à les trouver en ville plus ou moins, mais c'est pas évident non plus, hein, je peux te dire. Et puis il en fait tellement que tu risques pas de tout trouver, hein, c'est sûr. Hein.
Bah ouais. Enfin, ils vont peut-être pas. Peut-être de la vente en ligne, ce.
Tu peux toujours faire comme ça, ouais, bien sûr.
Ça va coûter cher.
Bah évidemment, c'est le problème. Et donc, c'était son EP, hommage à T-Rex. Hein. On avait déjà écouté deux morceaux, si je me souviens bien. On avait écouté Big McCain. Et puis, alors celui, il faut quand même que je regarde avant de me rappeler du titre, la Fist Heart Mighty Down Dart. Il y a encore une autre reprise, une quatrième reprise de T-Rex qu'on s'écoutera plus tard, un jour ou l'autre. Une reprise aussi d'un morceau acoustique de T-Rex. Là, c'était The Slider sur l'album du même nom, donc la période électrique, le grand album électrique de T-Rex avec, avec l'autre, la Electric Sun.
Non, pas Electric Sun, Sun, ça c'est... Contre, Electric Warrior.
Electric Warrior, pardon.
Ouais.
Les deux grands disques de T-Rex, là c'était donc The Slider, on s'écoutera l'original tout à l'heure, repris par Ty Segall.
Et bien, 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 on va s'écouter dans la famille groupe hollandais, l'autre, moins connu que Shocking Blue, mais capable de faire des choses beaucoup plus variées finalement, même s'ils n'ont pas eu la même gloire pour ce qui est des tubes, c'est Golden Earring. Bon, ils ont fait Radar Love quand même.
Ils en ont eu un. Voilà. Ils en ont eu un. Ils ont vécu dessus toute leur carrière.
Enfin, tu sais qu'ils avaient fait une longue carrière déjà avant Radar Love.
Mais dans l'anonymat total.
En dehors de la Hollande,
Voilà. Et après Radar Love, c'est devenu des stars. Des stars. Ça a été un morceau qui a connu une gloire internationale qui est encore repris régulièrement de diverses façons. Et c'est vrai que c'est resté leur cheval de bataille, leur hymne, quoi.
Eh bien, on s'écoute un album 78, Grab It For A Second, qui donc, quelques années après Radar Love, bon, tout n'est pas magnifique. Il y a une face 1 en particulier, où ils essaient un peu de faire les Eagles. Et une face B, avec un morceau qui n'a pas été un tube, mais qui aurait mérité de l'être, qui s'appelle Roxane. Alors, c'est pas celui qui est devenu un tube pour Police, hein, je vous rassure tout de suite. C'est un autre Roxane. Par Golden Earring.
Yeah.
Celui-là aussi, c'était le gros tube des Sparks, bien sûr, en 74, This Town Ain't Big Enough for Both of Us, sur l'album Kimono My House.
Un morceau étonnant quand même.
Un morceau totalement barré, totalement incroyable. Que ce soit au niveau de la musique, des vocaux, des arrangements, de la construction du morceau, c'était un truc incroyable. Et les Sparks étaient assez incroyables à cette époque-là, hein, enfin, encore pour quelques années. Là, c'était en 74, j'ai un album de 76 qui est grandiose aussi. Il en manquait un ou deux quand même de cette époque 70s là, et puis après c'est devenu autre chose, on va dire.
Oui, mais bon, il n'en reste pas moins qu'effectivement les deux albums là, troisième et quatrième, je crois que c'était Kimono My House et celui qui a suivi
Propaganda,
sont des choses étonnantes et magnifiques.
Ah, ouais.
Et les deux premiers sont intéressants aussi.
C'est pas mal, ouais. C'est moins marquant, c'est moins comment dire. C'est plus que c'est une musique un peu plus torturée, un peu plus. Celle-là elle est torturée aussi, mais c'est redoutablement efficace, quoi. Ils avaient trouvé la formule, disons.
Eh bien, voilà un paquet qui ont trouvé la formule et puis qui l'ont jamais quitté. il s'agit de Hawkwind. Hawkwind d'ailleurs qui prépare une nouvelle tournée ou peut-être l'ont même déjà commencé. Alors, ils sont vieux Kakoshim, hein. C'est-à-dire, il y a des jeunes dans le groupe, mais ils n'étaient pas au début. Il y a Dave Rock qui est toujours là à la guitare.
Des vieux, il n'en reste plus beaucoup d'après ce que tu m'as dit.
Et puis, il y a Tim Blake. Alors, Tim Blake qui était un membre tardif du groupe, hein, qui n'était pas dans les premières années, qui s'est rajouté, je crois, au début des années 80, et qui avant ça avait fait une carrière de, je sais plus, de synthétiseur planant. Genre Klaus Schulze en moins bien, tu vois.
D'accord, ça fait rêver.
Et qui est dans l'incarnation actuelle du groupe. Il l'a pas toujours été. J'ai vu une interview où on demandait Hugh Lloyd Langton, enfin un nom imprononçable gallois, le guitariste qui était sur le premier album en 1970, joue sur un morceau d'un disque que vous avez sorti, est-ce qu'il va tourner avec vous? Non, il est trop malade, il est trop vieux, ça, il n'a pas la santé pour. Il faut dire aussi qu'il avait été sur le premier album et ensuite sur aucun des albums qui avaient suivi. Non, pas tout à fait, il était revenu au bout de 10 albums. Enfin, au Queen, c'est toujours été comme ça, les gens entraient, sortaient, revenaient.
C'était une communauté.
Voilà, Robert Calvert, par exemple, il y a été, il n'y a pas été, il est sur l'album live le plus connu, mais il est sur aucun des albums studio qui ont été faits avant ou après, très curieusement. Et on rappelle aux gens quand même qui essaient de se retrouver dans la jungle qu'est la discographie de Hawkwind, qui a quatre albums studio de base importants qui sont In Search of Space, Do Re Mi Fa Sol La Ti Do, Hall of the Mountain Grill et Warrior on the Edge of Time, celui avec la couverture d'origine qui se dépliait pour faire un bouclier magnifique d'Heroic Fantasy. Bon. Plus, bien sûr, le double live imparable, voilà. Space Ritual, qui est peut-être celui par lequel il faut commencer, parce que c'est ça qui te met dans l'état de transe, et puis t'imagines Stacia. Alors, il y a quelques photos, mais il y a des ombres sur les photos. Voilà, il ne pouvait pas mettre les photos, la représentante telle qu'elle était, c'est-à-dire totalement à poil pendant les concerts. En 2011, EMI a sorti une compile, un triple CD.
Et Stacia continue à danser avec eux.
Ah ou... non, ça fait longtemps que Stacia danse plus. Et puis même sur la fin, elle dansait avec eux, mais elle se déshabillait pas autant, tu vois.
La belle époque était terminée.
Quand je les ai vus en 77 ou 18, tu vois, que je parle là, il y avait plus Stacia depuis mon belle lurette. Il y avait encore Robert Calvert, je crois, mais c'était, il y avait plus Lemmy. À partir du moment où Lemmy s'est barré, ça pue, et ça.
Ah, c'est sûr.
Voilà. Donc dernier album avec Lemmy Kilminster, c'est Warrior on the Edge of Time. Qu'est-ce que je racontais? Qu'il y a une compile de chez EMI sur 3 CD, bourrée de versions alternatives et quelques morceaux inédits, qui est sortie en 2011, qui s'appelle Parallel Universe et qui, pour une fois, n'est pas trop merdique, parce que si tu veux, il y a des tonnes de compiles mal étiquetées, avec n'importe quoi dedans, des versions lave pourries, des trucs qui se répètent, que tu sais pas ce que c'est, qui sont sortis, et donc pour un jeune, pour se retrouver dans la discographie de Hawkwind, c'est pas de la tarte. Mais cette compile-là couvre du premier album, qui à mon avis est moins essentiel quand même, jusque à Hall of the Mountain Grill, donc il n'y a pas Warrior on the Edge of Time, mais enfin, ça couvre la grande période productive qui a créé le mythe Hawkwind, avec, comme je disais, pas mal de morceaux remasterisés, bon ça c'est les morceaux tels qu'ils étaient à peu près, quelques mix alternatifs, dans certains cas, tu sais, des versions un peu plus longues, ou un peu plus courtes, parce qu'ils ont pris la version du single, qu'on n'avait pas sur l'album, enfin des trucs amusants pour les collectionneurs, plus quelques morceaux inédits, donc on va s'en écouter un, qui s'appelle Kiss of the Velvet Whip, où il y a un titre alternatif, Sweet Mistress of Pain. Bref, c'est un morceau sadomaso, ce qui est un peu curieux comme thème pour Hawkwind. On attend plutôt le Velvet Underground, tu vois. Mais c'est Hawkwind, oui, en 71.
We'll be right back.
Hawkwind, donc avec Kiss of the Velvet Whip, un morceau dans lequel ils suivent leur tactique habituelle de s'économiser point de vue riff, tu vois, pendant 4 minutes. La guitare fait le même truc, plus ou moins. C'est Hawkwind, mais il y a les petits zigouigouis interstellaires qui donnent tout leur, son cachet au morceau.
Efficace. Il aurait pu être sur un des albums de la grande époque, hein, finalement.
Oui, tout à fait, le même son, la même ambiance. Mais qu'est-ce que tu veux, comme le morceau faisait souvent 10 minutes, il pouvait pas mettre beaucoup par album.
Voilà, et ben écoute, on va passer à notre album classique du moment. Les Beatles, l'album blanc. Oula, c'est la dernière ligne droite là, il reste 3 morceaux.
Enfin, 2 morceaux et un collage avant-gardiste.
Voilà, mais qu'on ne peut pas éviter naturellement, hein, ça serait trahir notre mission. Donc c'est dans 15 jours hein, qu'on s'écoutera Revolution No. 9. Puisqu'on le rappelle, il n'y a pas d'émission la semaine prochaine, spécial anniversaire de Canal SF. Donc le morceau qui précède l'épreuve de Revolution No. 9, c'est Cry Baby Cry. Un morceau, ma foi, plutôt sympathique, de John Lennon, qui l'avait écrit, semble-t-il, à la fin de l'année 67, et qui lui a été inspiré par une pub, figure-toi. Une pub qui disait « Cry, baby, cry, make your mother buy ». Et bon, il a légèrement changé les paroles, et il en a fait un morceau, il n'en fallait pas plus comme source d'inspiration. À la fin, il y a un petit... comment dire, une sorte de morceau caché, une sorte de finale qui n'a rien à voir, qui est en fait inspiré d'un autre morceau qui avait été écrit par McCartney, qui n'a jamais été vraiment fini, qui s'appelait Can You Take Me Back. Enfin, Can You Take Me Back, c'est le nom que les fans lui donnent, puisque ça fait partie des paroles, quoi. Un morceau sans titre, en réalité, qui avait été enregistré pendant les sessions de I Will, à un moment. Là, ils ont fait une jam, plus ou moins improvisée, McCartney a sorti un petit truc et tout. Et ils ont récupéré ce petit extrait pour le coller à la fin de Cry Baby Cry. Voilà, ça faisait partie des petites expérimentations des Beatles. Hein. Donc le morceau Cry Baby Cry, bon, pas grand chose d'autre à dire. Il a été repris, hein, comme tous les autres. Hein. Mais j'ai pas trouvé de reprise, à vrai dire. Donc on s'écoutera tout à l'heure une reprise d'un autre morceau qu'on a passé précédemment, qui était aussi sur l'album blanc. On en reparlera tout à l'heure. Là, on s'écoute donc Cry Baby Cry par les Beatles sur l'album blanc.
The king of Marigold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry, make another sign. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. The king was in the garden picking flowers for a friend who came to play. The queen was in the playroom painting pictures for the children's holiday. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. The Duchess of Kikori always smiling and arriving late for tea. The Duke was having problems with a message at the local Airbnb. Cry, baby, cry, make another sound. No better, so cry, baby, cry. At 12 o'clock, a meeting round the table for a sales in the dark. With voices out of nowhere, put on specially by the children for a lark. Cry, baby, cry, make your mother sigh. I'm
you take me back where I came from? Can you take me back? Can you take me back where I came from? Brother, can you take me back? Can you take me back? Can you take me where I came from? Can you take me back?
Ah, ça c'était donc le fameux Can You Take Me Back juste à la fin de Cry Baby Cry. Et après, oulala.
Number 9. Allez, arrête le teasing, Sylvain.
Turn Me On, Dead Man. Tu te rappelles l'histoire de Turn Me On, Dead Man?
C'est ce que tu entends quand tu le passes à l'envers, c'est
voilà,
ça?
Voilà, c'est ça. Il y a un prêtre canadien qui avait fait tout un speech là-dessus en disant que cet album était évidemment sataniste parce que Turn Me On Dead Man, il a interprété ça comme excite-moi, et le Dead Man c'était Jésus-Christ bien entendu. Enfin bon, ça on en reparlera donc un jour quand on s'écoutera Revolution No. 9 en entier, et j'en ai une reprise de 18 minutes donc non ça c'est une blague, je vous rassure.
Eh bien écoute, tu nous as parlé de Monsieur Christ, de son prénom Jésus. Voici un morceau qui, dans le titre au moins, le fait allusion à lui, puisque ça s'appelle « Thank Christ for the Bomb ». Merci à Jésus-Christ pour la bombe. C'était le titre de l'album aussi, des Grand Hogs. Ça devait être le troisième ou quelque chose comme ça. Album des Grand Hogs, celui qui a vraiment installé leur style de blues progressif vers 1970 par là. Et donc on va s'écouter le morceau qui donnait son titre à l'album Thank Christ for the Bomb.
In 1914 the war began. A million soldiers lent a hand, worked many planes to give support. Hand to hand was the way they fought. Young men were called up for the cause, for king and country and the cross. In their naivety they thought it was for glory, so they'd been taught. Marching men occupying European land, all the way to North Vincennes. But in the final year of that war, two big bands settled the score against Japan, who joined the fight. The rising sun didn't look so bright. Stalemate. Everyone's scared to obliterate. So it seems to be we can thank the bomb. So I say thank Christ for the bomb. So I say thank Christ for the bomb. So I say thank Christ for the bomb.
Évidemment, ça se termine par une explosion.
Request
for the bomb.
Ah, ouais.
Ah bon, ça, c'est curieux, hein, ça commence à une petite chanson folk classique et ensuite le freak-out de guitare de Tony McPhee.
Oui, sans vraiment de transition très nette.
Non, c'est deux trucs collés ensemble, ouais, c'est comme ça.
Eh ben, après les Ground Dogs, on va s'écouter une petite reprise des Beatles quand même, hein, ça, même si j'ai pas de reprise de Cry Baby Cry, on va s'écouter une reprise de Revolution, number one, je te rassure, par Elliott Smith. Mm. Elliott Smith, ce personnage au destin tragique, tu sais... qui a démarré dans un groupe plus ou moins post-punk, on va dire, là, c'est velu et tout, puis qui a surtout été connu dans sa carrière solo, avec des morceaux acoustiques au départ, un petit peu plus arrangés par la suite, et des tas de reprises, des tonnes de reprises. Il y a beaucoup de morceaux live d'Elliott Smith qui circulent sur Internet, et il adorait les Beatles notamment. Il a repris un nombre incroyable de chansons des Beatles, mais pas seulement, le Brewster Cult, pas mal de groupes 70s en fait, on aura droit à quelques reprises là dans les semaines qui viennent. Par Elliott Smith, qui est un personnage un peu torturé, qui avait eu des... qui, lorsqu'il était adolescent, sa mère a divorcé et s'est remarié avec une grosse brute qui l'a frappé, mais qui frappait le gamin aussi. Il a fini par s'enfuir pour aller vivre avec son père, qui était psychiatre. Et par la suite, il a eu, semble-t-il, des comportements dépressifs, suicidaires. Il était accro aussi à l'héroïne, au crack, enfin bref... une vie difficile, et à l'âge de 34 ans, 2003, là, on l'a retrouvé mort dans un hôtel avec sa compagne, enfin de l'époque, qui avait téléphoné à la police. Je t'avais raconté l'histoire là, aux antennes. Il a été retrouvé mort avec deux coups de poignard dans le torse, semble-t-il. Et la fille expliquait que ouais, ils se sont disputés, elle s'est enfermée dans la salle de bain. Et quand elle est sortie de la salle de bain, il était là, étendu par terre, le couteau dans le ventre, quoi. Alors elle a enlevé le couteau et elle a appelé la police. Et alors, bon, alors les policiers sont arrivés, ils ont mené l'enquête quand même. Ils ont vu qu'il avait des traces, je sais pas comment ça porte un nom technique, là, des traces sur les mains qui laissaient penser qu'il s'était défendu, en fait. Des sortes de cicatrices. Mais un ami d'Elliott Smith est intervenu pour dire qu'il avait l'habitude de se scarifier, de s'automutiler. Alors bon, il se trouve que cet ami s'est retrouvé plus tard en couple avec la copine en question. Bon, et donc finalement, l'enquête n'est toujours pas conclue aujourd'hui, en 2012. Et on ne sait toujours pas si c'est un suicide ou un meurtre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est mort et qu'il a laissé quand même à la postérité pas mal de belles chansons. C'était un compositeur quand même intéressant. Et puis, beaucoup de belles reprises aussi. On va s'en écouter une, donc reprise des Beatles, reprise de Revolution par Elliott Smith. Il avait enregistré ça en 98. On se l'écoute tout de suite.
Yeah.
Elliott Smith en 98, reprenant les Beatles, bien sûr.
Très fidèle, finalement.
Oui, très fidèle à la version single de Revolution. Ouais. Voilà, assez velu, assez rentre-dedans. Une bonne partie des morceaux que je connais de lui sont en fait des versions acoustiques, live souvent, de divers morceaux, de diverses reprises. Elliott Smith. Mais le grand moment est arrivé, c'est la rubrique des Kinks.
C'est la rubrique des Kinks. Alors ce soir, on va passer un morceau qui se passe de présentation tellement il est connu. Et voilà, t'as qu'à lancer le jingle, si tu veux.
Je lance le jingle. Il était interminable ce jingle. Ah, oh, je retombe en enfance.
78, le premier album de Van Halen avec une reprise You Really Got Me, bien sûr, qui nous sert de jingle pour la rubrique de King. C'est que pour une fois, pour faire plaisir à Sylvain, hein, on a passé un entier.
Il va être en 6ème ou en 5ème, je sais plus. Ça me rappelle, de bons souvenirs. Bon, c'est une magnifique version de You Really Got Me. Hein. Totalement flamboyante, totalement sanglante. Par Van Halen, donc. Il faudra que je réécoute ce premier album quand même, là, parce que je sens que ça me rappellera des souvenirs. Bref, un petit dernier pour la route peut-être.
Oui, bien sûr.
Allez, alors par contre, j'avais prévu de passer Be My Yoko des Bobs, mais j'en ai calé un autre en fait, avant de tomber sur le disque des Bobs. J'ai la flemme de redécaler tout ça. Hein. Si tu y penses un jour, tu le ramèneras, les Bobs. Là,
Même tu peux le garder deux semaines, t'en fais pas.
Allez, écoute. Ben d'accord, comme ça, je laisse dans la poche et je ramènerai dans 15 jours. On s'écoutera Be My Yoko. Et là, c'est une découverte. C'est un groupe brésilien. Regarde-moi cette pochette un peu.
Brazos.
Os Brazos. C'est avec des dégaines de pirates, là. De pirates vaudous, complètement inquiétantes. Et qui font une musique qui n'est pas si terrifiante que ça, mais qui est quand même plutôt étonnante. C'est un peu Os Mutantes en moins délirant, on va dire, moins sauvage quand même. Une sorte de mélange. Rythme exotique, de percussion, de musique traditionnelle brésilienne et de psychédélisme et de guitare fuzz. Et ils le font plutôt pas mal. C'est des morceaux qui sont pas forcément immédiats. Là, c'est pas le truc qui t'explose dès la première écoute, mais quand tu rentres dedans, ça devient vraiment intéressant. Ils s'en passent en tout cas sur leurs morceaux. C'est un groupe qui est resté relativement obscur et qui est sorti des oubliettes par nos amis de Moi Je Connais et Moi Je Connais Records, tu sais, les frères Souchet, les mecs de Mama Rosine. Qui sur leur label sortent des compiles magnifiques et exhument des pépites incroyables. Et ben ça, c'en est une. Là. On va se découvrir ce disque aussi, là, semaine après semaine, tranquillement. Et ça va planer un peu, tu vas voir. Premier morceau du disque, hein, pour démarrer, ça s'appelle Pega Voga Cabeludo. C'est Os Brazos, vers 69, quelque chose comme ça, 69-70. On se les écoute tout de suite.
We'll be right back.
Peg avoir un cabeludo.
Voilà, je n'aurais pas pu le dire mieux que toi, c'est Os Brazos. Ce côté psyché, cette fuzz qui rugit derrière, ces percussions exotiques, ce flutio là qui surgit régulièrement. Et puis des moments là, ça rappelle un peu le psychédélisme californien, tu vois. Puis des fois, c'est plus la Motown là, enfin le côté Temptation.
Il y a un côté bien brésilien quand même.
Et puis alors, totalement, c'est très 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 net. Voilà, côté, je sais pas, c'est la samba, j'imagine. Enfin, je sais pas trop en fait, ce genre de rythme sautillant.
Mais ça sonne brésilien quoi.
Ah ouais, totalement. Et puis, il y a même un petit clin d'œil à Hendrix à un moment. Enfin bref, il y a un peu de tout sur ce disque. Et c'est plutôt pas mal, donc on en reparlera. Oui, sur Moi, je connais.
Moi, je connais Records. Bon, ben écoute, on va dire à dans deux semaines, puisque on fait un petit résumé de la situation. Nous sommes sur Canal Sud, 92.2 MHz. Tous les dimanches, à 21h30, vous avez les bébés dinosaures. Tous les dimanches, non. Exceptionnellement, dimanche prochain, le 24 juin, l'émission Canal SF célébrera sa 100e édition avec une émission plus longue de 3 heures qui commencera comme d'habitude à 20h mais qui se terminera à 23h, c'est-à-dire comme maintenant. Et donc, qui mangera le créneau des bébés dinosaures avec notre coopération bienveillante, bien entendu.
Absolument.
Voilà, sinon, si on avait voulu, on pouvait en faire des crêpes aux framboises avec nos grosses pâtes.
Évidemment, donc bon...
Voilà, mais la prochaine fois, donc, ce sera le 1er juillet, vous retrouverez Bébé Dinosaure de 21h30 à 23h. Vous retrouverez aussi, bien sûr, les Bébé Dinosaure en rediffusion, les lundis de 15h30 à 17h, quelque chose comme ça. Et
en podcast.
Voilà, et en podcast, en allant sur le site du Fanzine Digit, vous pouvez trouver les liens.
Et voilà, bon, petite blague pour finir, et puis, puis on se barre.
Vas-y.
Ah, jeune, très courte et très nulle. C'est un gars qui a un petit cheveu sur la langue qui rentre dans un bar et qui dit. Et la serveuse le voit, là, il gueule de loin, là. Qu'est-ce que vous voulez? Un mec qui dit je voudrais une 16. Une 16-64, mais non! Une 16 pour m'asseoir, connasse! Et voilà.
Ouais. J'avoue que. J'ai du mal à battre ça. J'ai pas trop réserve de blague. Est-ce que tu connais l'histoire du mec qui voulait faire opérer son chien pour qu'il apprenne à parler?
Vas-y. Si je la connais.
Tu l'as oublié. Bon. Oublié. Alors c'est un gars qui veut faire opérer son chien pour qu'il apprenne à parler. Il a appris qu'il y a un médecin à Paris qui peut opérer les chiens pour faire ça pour qu'ils parlent. Mais bon, il est un peu vieux, il n'a pas envie de voyager, donc il donne son fils l'argent pour l'opération. Quand c'est une opération nouvelle, ça coûte un peu cher, c'est 3000 euros. Donc il donne l'argent pour l'opération, il l'envoie à Paris pour, avec le chien, pour la clinique vétérinaire, où on peut opérer les chiens pour le faire parler. Et le fils, lui, il claque tout en cocaïne. Et puis, au bout d'une semaine, son père l'appelle. Il lui demande alors, ça s'est bien passé l'opération là pour le chien? J'ai pas eu de nouvelles là, dis-moi. Le fils répond oui, ça s'est bien passé. Alors, t'as parlé avec le chien? Ouais. Et qu'est-ce qu'il t'a raconté? Il m'a raconté comment tu baisais ta secrétaire, hein, papa. Le chien, pas besoin que tu rentres avec, tu peux le faire piquer.
Non, je ne connaissais pas, finalement.
Bon.
Bon, on va se barrer avant qu'on se fasse piquer nous-mêmes. Là.
Les amateurs de chiens n'ont sûrement pas apprécié.
Voilà, ils vont envoyer une expédition. Là.
Je sens aussi être recommandé du syndicat et secrétaire qui arrive.
Et peut-être que certains se disent qu'on aurait mieux fait de ne pas opérer les dinosaures pour qu'ils parlent, hein, mais c'est trop tard. Et donc, on va.
Non, mais ils vont nous faire piquer, tu sais.
Oui, c'est parce que j'ai vu. On va vous quitter avant que ça tourne au drame et puis vous laissez avec les bandes le jingle d'abord de notre magnifique émission et puis les bandes d'animation de Canal Sud. Et donc pas la semaine prochaine mais dans 15 jours.
sort of come back. I want him to come back. Yes, that's right. Tell him to come back.
I'll come back. You know I'm back to stay. Cause I'm just your little dinosaur. And I could never really go.
No.
Never really go.
He's back.
Never really go.
We'll be right back.